écouter les derniers messages qui ont été partagés sur le site, qui m'ont beaucoup encouragé sur le thème de la mission, de l'encouragement. Et franchement, ça m'a fait du bien. Et j'ai noté une parole de Jean Hay sur son message du 3 mai qui a dit qu'il y a plus qu'une nuance entre le fait de croire et le fait d'être disciple. Il y a plus qu'une nuance. Et ça tombe bien parce que c'est vraiment un aspect que je voulais aborder ce matin. Je ne sais pas si c'est toi, David, qui l'a dit ou quelqu'un d'autre sur le fait qu'on a le devoir de faire des choses. Mais au-delà du devoir, il y a une soif qui est là de partager qui est Dieu autour de nous. Et c'est une des choses que je voudrais continuer de partager ce matin sur la lignée des choses qui sont partagées dans l'Église. Et je vais prendre un passage. Vous savez que j'aime bien prendre des passages un petit peu anecdotiques dans la Bible. Et je vais prendre un passage en Exode au chapitre 15 où on trouve un cantique magnifique, Exode 15. Et d'ailleurs, le cantique lui-même nous donne le contexte du passage. Donc, c'est pratique pour nous, comme ça, c'est pas barbant. Hop, voilà. Et je vais lire Exode 15, les versets 11 à 14. Qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel ? Qui est comme toi magnifique en sainteté, digne de louange, opérant des prodiges ? Tu as étendu ta droite, la terre les a engloutis. Parmi ta miséricorde, tu as conduit, tu as délivré ce peuple. Par ta puissance, tu le diriges vers la demeure de ta sainteté. Les peuples l'apprennent et ils tremblent. Donc, c'était Exode 15, versets 11 à 14. Donc, on a ce rappel que Dieu a délivré son peuple d'Égypte. On a ce rappel que voilà, il a été grand et puissant. Et en réponse à ça, le peuple tente, par un cantique, de rendre compte de la bonté, de la puissance, de la gloire, de la volonté de Dieu pour son peuple. Et ce qui est tellement énorme, en fait, que ça semble même difficile à oublier. Mais bon, on est en Israël. Et après avoir entonné ce chant, les Israélites commencent leur marche dans le désert. Et après 3 jours, il y a un premier problème qui arrive. Puisqu'ils vont arriver à Mara, c'est un point d'eau, mais manque de bol, l'eau qu'ils vont trouver est si amère qu'elle est imbuvable. Donc, on n'est que 3 jours après la délivrance. 3 jours avant, ils ont traversé la mer. Ils ont fait un beau cantique. Et puis, alors qu'ils sont face à un problème de cette eau amère, ils vont commencer à murmurer, à ne pas être contents. Et une fois devient coutume, ils vont commencer à se plaindre auprès de Moïse. Moïse, il va commencer à prendre cette habitude. Et ça, c'est les versets 22 à 23 du chapitre 15 de l'Exode. Je continue. Moïse fit partir Israël de la mer Rouge, ils prirent la direction du désert de Chour, et après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Le peuple murmura contre Moïse en disant « Que boirons-nous ? » Et Dieu va régler le problème au verset 25. Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau, et l'eau devint douce. Donc, Dieu est sympa, hein, il règle le problème malgré les murmures. Mais Dieu va ajouter quelque chose juste après, qui est très, très surprenant, surtout à ce stade de leur marche. Donc, je lis toujours au verset 25. « Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances, et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. » Il dit « Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ces lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. » Ils arrivèrent à Élim, où il y avait 12 sources d'eau et 70 palmiers, et ils campèrent là près de l'eau. Je m'arrête là pour cette lecture. Alors, c'est assez extraordinaire parce qu'ils sont à Mara, il y a 12 sources d'eau, c'est-à-dire qu'il y en a une par tribu. Ouais, c'est ça, il y en a une par tribu. Et il y a 70 palmiers, alors ça c'est le mieux, il y a un palmier par ancien, les 70 anciens. Donc je me disais, imaginez ça, on fait ça dans l'église, on met 3 palmiers, une source d'eau par groupe de vie, vous voyez. Et puis voilà, c'est l'église, la source de Mara, enfin un truc magnifique. Allez, je me tais. Mais c'est pour dire que Dieu avait bien prévu le coup, les 70 palmiers, les 12 sources d'eau, il y a les tribus, il y a les anciens, tout le monde est content. Franchement, ce n'est pas un hasard, mais l'eau est amère. Et évidemment, ils ne sont pas contents. Alors, Dieu va rendre l'eau buvable. Et on se dit que, franchement, nos Israélites, là, ils sont bien. On imagine les palmiers, on imagine un oasis, on imagine les sources d'eau dans le désert. Ça devient largement plus supportable que ce qu'on pourrait croire. C'est un petit peu le Club Med. Pour dire que Dieu avait vraiment... Il les a coucounés à ce moment-là. Mais il manquait un truc. Et bon, ils vont murmurer contre ça. Donc, Dieu va adoucir la source d'eau. Mais vous avez bien compris qu'il ne fait pas ça juste pour le spectacle. Parce qu'il n'a pas oublié que le peuple a murmuré contre lui. Alors, il a cette phrase où il rappelle que le peuple doit lui obéir. Il va lui rappeler ses ordonnances. Et il fait un parallèle entre les plaies d'Égypte et l'eau de Marah, l'eau dans ce passage. Parce qu'en fait, il fait une référence à la première plaie d'Égypte où il a rendu l'eau imbuvable du Nil. Et là, il trouve comme premier problème dans le désert l'eau imbuvable de ses sources d'eau à Marah. C'est pour ça qu'il dit « Je règle le problème, je suis de votre côté, je suis l'Éternel qui te guérit. » Il règle le problème. Mais quand même, il va quand même ajouter « Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux et si tu prêtes l'oreille à ses commandements, voilà, en gros, il dit « Je règle ce problème et n'oubliez pas de suivre mes lois et mes commandements. » Alors, ce n'est pas tant qu'il leur dit « Je vais vous frapper des plaies d'Égypte », mais c'est plutôt de leur dire, de les interpeller en disant « Vous voyez, dans votre course avec moi, dans cette marche, vous avez murmuré alors qu'il y avait les palmiers, il y avait l'oasis, il y avait tout ce qu'il fallait, le problème, j'allais le régler. » Et en fait, c'est comme s'il leur disait « Si vous râlez comme ça, en quoi vous êtes différent des Égyptiens ?» Au final, si vous râlez comme ça, si vous ne croyez pas que je suis le Dieu qui peut toucher, parce que vous êtes si différent des Égyptiens. Donc, il y va fort en parlant des plaies d'Égypte, mais c'est pour les interpeller en disant « Franchement, je vous ai fait un petit Club Med là dans le désert. Vous exagérez un petit peu, il faut se calmer. » Donc, il les interpelle en disant « Pourquoi vous faites ça ? Et est-ce que vous êtes si différent des Égyptiens ?» Et il faut bien se rappeler d'ailleurs que Dieu a frappé l'Égypte, pas tant pour son péché, mais surtout parce qu'il Pharaon n'a pas écouté la voix de Dieu qui lui a dit « Laisse partir mon peuple ». C'est parce qu'il n'a pas écouté qu'il les a punis comme ça. Et ce qui est d'autant plus étonnant dans ce passage, c'est que Dieu va même dire aux Israélites qu'il faut donc obéir à ses lois, à ses ordonnances, mais il le fait un mois avant le don de la loi. C'est-à-dire que c'est la première fois dans le désert qu'il leur dit « Il va falloir maintenant vous attacher à moi, il va falloir me suivre, il va falloir m'obéir. » Il faut bien avoir conscience. Alors, dans l'Exode, c'est quelques chapitres après, on se retrouve au Sinaï avec le don glorieux de la loi. Et bien avant, à Marah, il va leur dire « Moi, j'adoucis l'eau, je vous fais un cocooning, je vous fais les sources d'eau, les palmiers, tout ce que vous voulez. Mais n'oubliez pas d'obéir et de vous attacher à mes lois, en fait, à sa volonté. » Alors, pourquoi il fait ça? Je me suis demandé pourquoi il dit ça si tôt dans l'histoire? Je veux dire, le mont Sinaï, c'est dans un mois. Il aurait pu attendre ce moment-là pour tout dire. Pourquoi il le rappelle pile à ce moment-là? On n'est que 3 jours après la délivrance et déjà, il va leur dire « Il va falloir suivre mes lois et mes ordonnances. » Et en fait, je pense que s'il fait ça, déjà à Marah, c'est parce qu'il veut corriger une erreur. Et cette erreur, c'est parce qu'il ne veut pas que le peuple fasse de sa délivrance un but en soi. En fait, il ne veut pas que la délivrance d'Israël soit une finalité en soi. Et c'est ça qu'il essaie de corriger dans ce peuple. Le peuple, il se dit, on est sauvé, hop, c'est bon, on passe à autre chose, on peut faire n'importe quoi. Et Dieu va rappeler tout de suite sa loi juste après la délivrance pour dire, votre salut, il a une direction, il a un sens, il a un chemin que je trace devant vous. Alors, ce n'est pas pour dire que la délivrance n'a pas de but, mais c'est plutôt de dire que la délivrance, elle a ce but-là d'obéir à la loi, c'est-à-dire de s'attacher à la volonté de Dieu, de s'attacher à lui, en fait, de s'attacher directement à sa personne. Et en fait, ce que Dieu est en train de leur dire, sitôt après leur délivrance, sitôt après le chemin du salut qu'ils vont emprunter, 3 jours après traverser la mer et voir toute la gloire de Dieu qui les bénit, en fait, Dieu est en train de leur dire, avant même que je vous sauve, avant même que je vous délivre de ce pays de servitude, avant même que je vous bénisse, avant même que je fasse de vous une grande nation, j'avais déjà pour vous une vocation. Et c'est ça qu'il est en train de leur dire là. Et c'est une vocation qui est d'être une bénédiction pour les nations. Et c'est vraiment ça qu'il tente de rappeler à Israël. Les Israélites dans le désert, ils sont sauvés, ils sont délivrés, Mais ce n'est pas le but, ta délivrance. Par contre, ta délivrance, elle a un but. Et ce but, c'est de s'attacher à la loi de Dieu, c'est-à-dire de faire sa volonté et d'être une bénédiction pour les nations. Et cette vocation, elle précède toujours dans la Bible la délivrance. Elle précède toujours dans la Bible le salut. Puisque quand Moïse va voir Pharaon, il lui dit « Laisse partir mon peuple ». C'est déjà le peuple de l'Alliance, c'est déjà le peuple de la grâce de Dieu, c'est déjà le peuple de la bénédiction pour les nations. Avant même leur salut, ils sont appelés à un destin glorieux. Et Dieu leur rappelle après la délivrance, il leur dit « N'oubliez pas ça parce que vous murmurez vite ». Et en fait, en faisant ça, vous oubliez même que je vous appelle à être cette bénédiction, quoi. Et vous ne pouvez pas faire comme les autres, vous ne pouvez pas être comme les Égyptiens. Vous devez être différent, je vous ai appelé à ça. Mais ce qui est essentiel dans ce passage, c'est de dire que la vocation, notre vocation même, nous, elle précède notre salut. Elle précède tout ce que Dieu a fait pour nous. Parce que Dieu avait déjà un dessein pour nous, il avait déjà un chemin tout tracé, il avait déjà une destinée glorieuse, et c'est ça qui est formidable. Et cette bénédiction, elle vient d'Abraham, évidemment. Il lui dit « Ta descendance sera une bénédiction pour toutes les nations ». Et Abraham, il vit la même chose que les Israélites plus tard. Il quitte ses terres. Et c'est qu'une fois qu'il a quitté ses terres que Dieu va lui adresser cette vocation d'être le père d'un peuple qui serait une bénédiction pour le monde. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est pour ça que Dieu dit à Mara à ce moment-là, si vous vous plaignez comme ça, qu'est-ce qui vous différencie des Égyptiens ? C'est pour ça qu'il y va fort, hein. C'est parce qu'il dit, je viens vous délivrer, ça fait 3 jours que je vous ai délivré, et vous avez déjà oublié le sens de cette délivrance. Si bien que vous vous plaignez. C'est pour ça que Dieu rappelle vraiment à son peuple à ce moment-là, et je vais en venir à nous évidemment, que notre vocation d'être une bénédiction, elle précède même notre délivrance. Et elle est l'expression de cette délivrance. Elle le précède, mais de toute éternité, j'ai envie de dire. Ça, c'est ce que Paul dira aux Éphésiens. Vous avez été élus avant la fondation du monde. Dieu vous a choisi pour être une bénédiction dans ce monde. Et c'est extraordinaire, c'est merveilleux. Mais ce passage nous montre que quand on oublie que la vocation précède cette mission, eh bien, on oublie même le sens de notre délivrance, le sens de notre salut qui s'accomplit là. C'est pour ça que j'aime bien quand Jean a dit qu'il y a plus qu'une nuance entre le fait de croire et le fait d'être disciple, il y a plus qu'une nuance, parce que en fait, c'est une vocation. C'est une vocation qui est d'être une bénédiction pour le monde. C'est pour ça qu'on est sur Terre, pour être une bénédiction sur le monde. Et quand on oublie cette vocation, et je pense que c'est un petit peu le raisonnement de Dieu ici, quand on oublie cette vocation, on oublie finalement, pas pourquoi on a été sauvé, mais quel sens, quel est le sens de notre salut. Donc le but, c'est pas que d'aller au ciel, mais aller au ciel, ça a un but, et le but, c'est d'être une bénédiction pour les nations. Et je crois que tous les témoignages qu'on a eus, tout ce qui a été partagé là pendant le culte, c'est ça, c'est vraiment ça, c'est d'être une bénédiction pour les nations. Alors, Dieu rappelle évidemment à Mara, hein, il leur dit, moi je suis prêt à vous tracer un chemin dans le désert, mais n'oubliez surtout pas ça. C'est pour ça que dans la Bible, il y a souvent, quand Dieu sauve quelqu'un, juste après, il va leur donner un mandat, mais il va leur dire ce mandat, il était déjà là même avant, parce que j'avais quelque chose en tête. Il y avait vraiment quelque chose en tête. Abraham a quitté son pays, ses terres, mais Dieu avait déjà une vocation pour lui qui va lui exprimer une fois qu'il est dans cette marche, une fois qu'il est dans ce salut. Et en fait, il y a 2 exemples bibliques. Je vais prendre un exemple et un contre-exemple, vraiment pour qu'on puisse s'approprier ça. Si on relit l'histoire de Noé, je l'ai relu cette semaine, on voit que comme Israël, il échappe au jugement qui tombe sur l'Égypte, bah lui, il va dans l'arche, il échappe au déluge. Mais dès qu'il sort de l'arche, comme dès que les Israélites sortent de la mer, Dieu rappelle à Noé le mandat qui lui est confié. Règne, sois une bénédiction autour de toi. Mais il fait ça juste après la délivrance pour lui dire le sens même de cette délivrance. On ne peut pas déconnecter d'un côté notre salut et de l'autre côté, en fait, l'évangélisation. C'est ça. On ne peut pas les déconnecter, c'est le sens. L'évangélisation donne le sens même du salut. Notre témoignage donne le sens même de notre délivrance et de notre salut. C'est pour ça que ce soit pour Noé, que ce soit dans bien des cas dans l'histoire d'Israël, que ce soit pour cet épisode qu'on a lu ce matin, Dieu rappelle souvent le mandat qui nous est confié juste après la délivrance pour dire « il y a là le sens de ce que vous êtes en train d'accomplir ». Et un contre-exemple, le contre-exemple malheureux, malheureusement parfait, c'est quand Dieu juge Sodome et Gomorre et que la famille de Lot s'échappe. Et le but de cette délivrance, c'est de regarder vers Dieu et de voir les bénédictions et d'être une bénédiction. Mais dans cette course pour échapper au jugement de Dieu et dans ce chemin du salut, la femme de Lot se retourne par nostalgie et on connaît l'histoire, elle ne peut pas finir sa course, elle est transformée en statue de sel. Pourquoi ? Parce qu'en fait, prendre le chemin du salut, ça a un sens qu'elle n'avait pas compris, elle n'avait pas saisi pourquoi elle échappait à ça et elle regardait en arrière. Dans le désert à Mara, le peuple regarde en arrière. Plusieurs fois, ils vont dire « on regrette l'Égypte, on regrette tout ça » et Dieu va les interpeller en disant « vous n'êtes pas des Égyptiens, vous êtes un autre peuple, vous êtes mon peuple et vous êtes censé être une bénédiction. » Mais ce sens du salut, vous le trouvez dans cette bénédiction que vous êtes autour de vous. Donc, c'est super profond, c'est super profond. Et c'est pour ça que Paul dira aux Éphésiens, mais ça remonte même avant la fondation du monde. Il vous avait choisi pour être une bénédiction. Ce n'est pas une activité qui se rajoute au salut, le témoignage. C'est un plan de toute éternité qui est absolument glorieux. Et c'est pour ça que si vous relisez les passages dans la Bible, les passages où Dieu sauve quelqu'un ou sauve un groupe ou sauve son peuple, à chaque fois, il va renouveler ce mandat, cette alliance, pour leur dire, il y a un sens à tout ça, il y a un sens. Vous êtes une bénédiction autour de vous. Vous avez été sauvés pour ça. Vous avez été sauvés pour ça. C'est vrai pour Abraham, c'est vrai pour Noé, c'est vrai pour toute l'histoire d'Israël, c'est vrai pour nous. Avant la fondation du monde, nous avons été choisis pour être une bénédiction. J'avais ce verset de 1 Corinthiens 6, 20 qui dit « Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et votre esprit qui appartiennent à Dieu. » On a été rachetés pour glorifier Dieu, pour être une bénédiction. Le témoignage chrétien, ce n'est pas une activité dans un planning. Ça peut être organisé comme ça, mais c'est bien plus que ça. C'est une vocation. Et c'est pour ça, je vous répète ce que disait Jean-Hé, il y a beaucoup plus qu'une nuance entre le fait de croire et le fait d'être un disciple. C'est notre raison de vivre. C'est notre raison d'être ici sur Terre. Parce qu'en étant une bénédiction pour les nations, on a un sujet de joie pour Dieu et ça, c'est le top. Alors, évidemment, on ne croit pas qu'on fait ces choses pour être sauvé, mais parce qu'on est sauvé. Et j'ai un ami qui le formulait comme ça. En fait, ce n'est pas le salut par les œuvres, on ne fait pas ça pour être sauvé. Et c'est pour ça que le fait que la vocation précède la délivrance nous interdit de penser que notre témoignage nous sauve. Pas du tout. Ça, c'est la vocation le précède bien avant. On n'est pas sauvé par les œuvres, mais on est sauvé pour les œuvres. Et je pense que ça, c'est quelque chose que la Bible nous rappelle. Et j'avais ce passage en Éphésiens 2, versets 8 à 10. Car c'est par la grâce que vous avez été sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. C'est par la foi, mais pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparé d'avance, afin que nous les pratiquions. Et une dernière chose qui m'a amusé en relisant un petit peu le Nouveau Testament ces derniers temps et en me plongeant dans le grec, c'est que le fait d'être sauvé, même dans le Nouveau Testament, à part en Éphésiens, il n'y a qu'une fois où il est écrit qu'on a été sauvé. Et toutes les autres fois, il est écrit que c'est comme si on était dans le grec, dans le temps du grec, on est en train de l'être. Alors, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas sauvé et que c'est acquis une bonne fois pour toutes, mais c'est pour dire que le salut, ce n'est pas qu'une œuvre passée qui s'est passée dans notre vie à un moment donné, c'est une façon de vivre, c'est une culture et c'est le sens même le salut de notre évangélisation, de notre témoignage. C'est vraiment les deux vont ensemble, c'est quelque chose de formidable. C'est pour ne pas oublier la vocation qui est attachée au fait qu'on ait été délivré, c'est d'être une bénédiction pour les nations. Donc il y a bien plus qu'une nuance entre le fait de croire et le fait d'être disciple, c'est celle d'être carrément une vocation. Et cette vocation, c'est de bénir. Le témoignage, c'est une bénédiction. L'évangélisation, c'est le fait d'être un sujet de bénédiction pour les autres. Et je l'ai entendu dans les témoignages qu'on a eus, je suis sûr qu'on l'a tous fait pendant le confinement. Là, on est dedans, en fait. On n'est pas moins dedans que si on va dans la rue et qu'on va interpeller les gens. Là, on est dans la bénédiction pour les nations. Alors, j'aimerais terminer par un passage en Romains 12, à partir du verset 9, où Paul nous rappelle l'importance de cette bénédiction qui est formidable. Romains 12, 9. que la charité ou que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez plein d'affection pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervent d'esprit. Servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patient dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Pourvoyez aux besoins des saints. Exercez l'hospitalité. Et puis Paul va faire ça en apothéose, il va le dire comme ça. Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez, ne maudissez pas, bénissez. Soyons une bénédiction autour de nous et soyons, ce faisant, un sujet de joie pour le Seigneur. Et j'en ai terminé.
Amen. Merci Nico. On applaudit. Merci Nico, c'est effectivement... comme tu le dis, hein, exactement dans la ligne de tout ce qu'on est en train de rappeler en ce moment, à quel point Jésus ne nous a pas juste dit « croyez en moi, mais suivez-moi ». Et je trouve que c'est très juste de nous souvenir ce matin, effectivement, que dans le salut, il y a un appel de Christ qui est automatiquement embarqué. Voilà, ce n'est pas une option qu'on rajoute, c'est que c'est automatiquement embarqué. Quand je réponds à Christ et que je lui donne ma vie, je suis automatiquement appelé à être une bénédiction pour ce monde, à être une lumière, à être du sel, à donner de la saveur et à faire du bien autour de nous. Alors que ce soit un encouragement qui nous tienne encore cette semaine et qui nous encourage à persévérer, à poursuivre, à peut-être aller plus loin encore dans notre manière de nous bénir les uns les autres et de bénir autour de nous, d'être un instrument de bénédiction pour les nations. Voyons grand, voyons large, n'ayons pas peur de voir la bénédiction plus grande que celle que nous la voyons aujourd'hui, y compris au travers de nous. N'attendons pas que Dieu bénisse la terre, commençons à la bénir nous aussi et de manière de plus en plus grande. Je crois que c'était important que tu nous rappelles tout ça, Nicolas. Je te remercie pour ça ce matin. Ce que je propose, c'est peut-être juste qu'on finisse en priant et puis qu'on ouvre les micros de tout le monde après. Seigneur, merci de nous rappeler ça, Seigneur. Merci de nous rappeler à quel point toi, tu as béni, Seigneur, sans compter, sans mesure, Seigneur, et à quel point tu nous appelles à faire la même chose au travers de ton sang, Seigneur, que toutes ces œuvres qui sont préparées d'avance, Seigneur, ce sont des œuvres de bénédiction et on veut dire qu'on y rentre, Seigneur, on veut dire qu'on veut les pratiquer, Seigneur, qu'on veut pas les retenir et qu'on veut être en bénédiction pour les nations, on veut être en bénédiction pour notre voisinage, on veut être en bénédiction pour nos familles, Seigneur, on veut être en bénédiction pour nos amis, on veut être des sources de bénédiction dans ce monde, non pas des sources amères, mais des sources qui ont été purifiées, Seigneur, par le bois de ta croix qui a été plongé dans notre eau, Seigneur. Vraiment, nous voulons bénir, bénir et bénir encore. Et c'est un engagement en tant que communauté que nous prenons ce matin de répondre à ce que tu nous rappelles et à la manière dont tu te révèles ce matin à nous, Seigneur, de nous dire « soyez en bénédiction, soyez une bénédiction, y compris pour vos ennemis, pour ceux qui en apparence sont vos ennemis. Nous voulons bénir, Seigneur, ce matin et nous répondons que oui, nous voulons y aller. Continue de nous inspirer par ton esprit, continue de nous conduire dans cette dimension-là de plus en plus puissamment, Seigneur, au nom de Jésus. Amen.